Bonjour à tous, je suis Yann Leonardi et bienvenue sur L'Art Appliqué, le podcast Growth Marketing pour faire grossir son business. Dans chaque épisode, j'interviewe des experts marketing et growth pour parler entre autres de la façon dont ils appliquent le framework ARR. On va parler newsletter d'abord comme canal de communication, aidant à l'activation, à la rétention, au referral d'un business, mais aussi newsletter comme business à part entière, un business indépendant. Des newsletters qui sont monétisés grâce à des nouveaux outils comme Substack.
Je vois plus la newsletter comme une façon de faire rayonner à la fois ta vision, ta culture, montrer c'est quoi tes valeurs, tout ça au travers de contenu. Pareil, il offre des goodies. Si jamais tu fais X referral, t'as le droit de prendre la parole dans ta newsletter qui est envoyée à 10 000 personnes. Il n'y a rien de pire que de mettre ton email et juste pas savoir ce qui s'est passé, quoi.
Johan Lopez est le CMO de Comet, mais pas que. Il a lancé récemment la newsletter Snowball sur les finances personnelles, une nouvelle aventure entrepreneuriale sous forme de newsletter. Il sait donc manier la newsletter comme canal de communication pour une boîte, mais aussi comme un business en soi, avec un modèle économique de newsletter payante en abonnement, très en vogue en ce moment. À la fin de cet épisode, vous saurez tout sur la bonne utilisation d'une newsletter pour son activité, et sur ce moyen de monétisation de la passion économique. Cet épisode est fait pour vous si vous avez un business et que vous envoyez régulièrement une newsletter à vos clients ou leads. Cet épisode est aussi fait pour vous si vous essayez de créer une audience, une communauté, et que la réflexion de la monétisation de cette audience est un sujet. Le newsletter marketing, on en parle tout de suite, c'est parti. Bonjour Johan Lopez.
Salut, salut.
Alors Johan, tu travailles avec Comet sur le marketing. Pour ceux qui ne connaissent pas, Comet, c'est une plateforme de freelance pour les métiers tech, dev, product. Tu travailles aussi pas mal ton personal branding avec un site perso et notamment des publications sur LinkedIn où tu parles entrepreneuriat, tu partages des outils, entre autres. Et j'ai été aussi surpris de découvrir il y a pas si longtemps que ça, sur tes posts LinkedIn, que tu faisais la promotion d'une newsletter qui s'appelle Snowball, une newsletter sur les finances personnelles avec une approche plus pratique que théorique. Est-ce que tu peux nous parler de Snowball rapidement, qu'on comprenne bien de quoi il s'agit?
Ouais, en quelques mots, on en parlera un peu plus tout à l'heure, mais l'idée c'était vraiment de créer du contenu pour un peu démystifier le monde de la finance qui en France est quand même un monde peu connu, d'essayer d'accompagner les gens au maximum en présentant ce que moi je fais personnellement pour mes finances perso. Donc ça va de la gestion de son budget jusqu'à comment j'investis en bourse ou ma vision des cryptos, qu'est-ce que je fais, etc. Donc l'idée c'était vraiment de présenter ça de façon très très pratique et c'est évidemment je parle de la théorie parce que c'est important de connaître les fondations, mais l'idée c'était vraiment de à la fin de la lecture d'une édition de dire j'ai compris comment une action ça fonctionne et je sais à peu près c'est quoi mes next steps, quoi, presque comme un tuto, quoi.
Ok. Mais alors du coup, ça c'est intéressant. Pourquoi tu as choisi le format newsletter et tu t'es pas dit je vais faire un blog ou je vais faire une chaîne YouTube ou je sais pas, tu vois, il y avait plein d'autres façons de promouvoir ce contenu.
Ouais. Déjà, je pense que la première chose, c'est très personnel, je pense, c'est je suis quelqu'un de plus écrit que oral, quoi. Donc j'ai tendance à mieux m'exprimer, exprimer mes idées à l'écrit que en vidéo ou en audio. Donc ça, c'était la première chose. Et puis la deuxième, c'est que je me disais que vu que je voulais faire quelque chose quand même de très, alors j'aime pas le mot, mais parce que ça rentrait dans le jargon des start-upers, mais très actionnable, je trouvais que l'écrit était quand même plus simple. En gros, comme je te disais, c'est suivre un tuto. Je trouvais que le fait de l'écrire permettrait sûrement aux gens de mieux l'intégrer. Alors c'est une vision personnelle du truc. Donc c'était un peu un mix des deux, une conviction que l'écrit était mieux pour ce sujet et aussi une conviction, enfin pas une conviction mais une préférence personnelle.
Ok. Et puis il y a aussi la nouveauté du business model de newsletter payante, qui on va en reparler plus tard, mais ouais. Du coup je suppose que ça a pas mal fait pencher la balance pour la newsletter de ton côté, quoi.
Surtout sur la plateforme Substack, donc qui est la plateforme que j'utilise pour faire la newsletter. Mais en effet il y avait des solutions pour monétiser des vidéos, t'as d'autres plateformes qui existent pour faire payer les gens qui regardent des vidéos, mais bon, c'était un peu plus compliqué. C'est aussi rentré dans l'équation, mais à moindre mesure.
Ok, parfait. Donc du coup, c'est justement dans le cadre de mes interrogations sur les newsletters de manière générale que je voulais t'inviter.
Ouais.
Newsletter, comme on connaît tous, le canal de communication, qui est un atout qui peut être utilisé en activation, en rétention, pour un business de manière générale. Mais aussi newsletter, donc comme tu le développes toi, comme un business à part entière.
Ouais.
car ça se développe effectivement de plus en plus, et notamment grâce à des plateformes comme Substack. Soit on a une newsletter qui vient se greffer sur une activité, comme du coup tu as pu le faire et l'expérimenter avec Comet, soit on a une newsletter qui est complètement indépendante, comme Snowball. Je sais que tu es un grand fan de newsletters. Est-ce que tu peux nous dire à partir de quand sont arrivés ces nouveaux modèles de newsletters payants? Parce que moi, ça, j'ai l'impression que ça m'a un peu échappé et je l'ai découvert un peu tardivement. Quand c'est arrivé et quand est-ce que toi, tu as décidé de te lancer là-dedans?
Je pense que là, il y a vraiment un boom de la newsletter payante en ce moment. Donc, c'est depuis un an, on va dire, un an et demi, ça a explosé. Je crois que Substack, ils ont fait x4 en termes de rédacteurs de newsletters sur la plateforme juste pendant la crise Covid, quoi, en gros, les 3 mois après mars.
Ouais. Ah oui, d'accord. Pendant Covid, tout le monde s'est lancé là-dedans, en fait.
Ouais. Donc là, il y a vraiment un boom qui, en gros, a commencé, je dirais, il y a un an et demi, 2 ans. Enfin, c'est un modèle qui existe depuis même avant Internet, puisque tu avais des abonnements par courrier directement. Il y avait déjà des modèles dans les années 60 ou même avant où les gens s'abonnaient et recevaient par courrier souvent des experts qui en fait partageaient. C'était que ce soit en finance ou que ce soit en marketing, etc. Ça existait déjà. Pendant longtemps, le moyen principal de monétiser sa newsletter, c'était surtout du sponsoring.
D'accord.
Quand on voit des newsletters, on voit sponsorisé par telle ou telle boîte. Et là, ça fait depuis assez peu de temps, en gros depuis le début de la passion économie, donc c'était tous ces gens qui se lancent un peu sur des sujets qui les passionnent. Alors comme tu disais, ça peut être de la vidéo, de l'écrit, etc. Mais ça fait en gros, on va dire que ça va faire 4 ans que ça a commencé, et c'est à partir de là que ça a commencé à prendre.
Ok, alors passion économie, c'est intéressant parce que du coup, pendant longtemps, il y a eu un problème de monétisation de cette passion économie, parce que les gens n'étaient pas forcément prêts à payer, et il y a du coup des solutions qui sont apparues. Alors, je pense notamment à Patreon, mais alors Substack, c'est vraiment, vraiment le... j'ai l'impression que c'est le truc le plus adéquat pour une newsletter. Est-ce que tu peux nous expliquer en gros comment ça fonctionne pour quelqu'un qui ne connaît pas?
C'est assez simple. En gros, moi, j'aime bien le voir un peu comme une sorte de mix entre un Medium, donc Medium qui est une plateforme de blogging qui existe un peu comme un WordPress, mais beaucoup plus simple d'utilisation, on va dire. Mélangé du coup avec une solution d'envoi d'email, donc à la Mailchimp ou SendGrid ou Mailjet, etc. Et donc les deux combinés qui font que en fait moi j'écris ma newsletter, je l'envoie, donc tout le monde reçoit, tous mes abonnés reçoivent l'email, et ensuite c'est disponible sur le site internet de snowball.substack.com comme si c'était un blog en fait. Donc ça permet de d'archiver tes articles et de aussi développer derrière ce côté librairie, ce côté bibliothèque, et aussi potentiellement ton SEO. Alors aujourd'hui, ils font pas trop d'efforts là-dessus, mais je pense qu'ils vont y arriver, quoi. Donc en gros, voilà, c'est ça. C'est un mix entre Medium et Mailchimp.
D'accord, très bien. Écoute, on reparlera plus en détail du fonctionnement de la plateforme, notamment au niveau comment ça se monétise. Mais du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que j'avais pas pensé à ça. Il y a la partie SEO qui va potentiellement pouvoir s'ajouter comme une autre brique d'acquisition potentielle avec Substack.
Ouais.
Ok.
Je commence à le voir, moi.
Tu vois les premiers résultats de ça?
Ouais, je vois qu'il y a pas mal de gens qui viennent de Google, donc je me dis que ça doit commencer à marcher. Ouais.
Ah, c'est marrant, ça, parce que ça va devenir un enjeu, en fait. C'est-à-dire que, il y a le copywriting pour que les gens ils suivent ta newsletter et qu'ils soient intéressés par ce que tu racontes. Mm-hmm. Et peut-être qu'il va y avoir un petit enjeu SEO, donc il faudra peut-être un peu modifier ces textes.
Ouais.
À voir.
Ouais.
Alors, avant d'attaquer les questions sur le framework art, j'aimerais savoir, la question que je pose à chaque fois, quand est-ce que tu as entendu parler du modèle art la toute première fois?
Alors, si je me trompe pas, ça devait être sûrement à la fin de mes études, donc en 2013, 2012. Ouais, c'est là où j'ai vraiment commencé à m'intéresser à l'univers des startups. Donc,
T'as dû traîner, voir les vidéos de The Family, un truc comme ça, non?
C'était avant The Family, parce qu'en fait, moi, quand j'avais fait mon master, j'avais déjà fait un partenariat avec le camping. C'était là où travaillaient Alice et Oussama.
Le camping,
à l'époque.
Exact.
Et du coup, c'est là où j'ai commencé vraiment à m'intéresser à tout cet univers-là. J'ai lu The Lean Startup, etc. Et je me suis quand même pas mal intéressé à tout cet univers. Donc, je dirais que c'était autour de dans ces eaux-là, quoi, on va dire.
D'accord. Et depuis, est-ce que tu as eu l'occasion de l'utiliser?
Ouais, alors dans mon expérience chez Comet, ouais, on a quand même si tout testé, on a testé pas mal de choses tout le long du funnel. Donc nous, c'était, on avait un gros focus plutôt sur la partie acquisition pendant longtemps. La rétention n'était pas forcément le problème, sachant que la rétention était plutôt une problématique, comment dire, de liquidité de la place de marché, on va dire, parce qu'en gros. Nous, on avait un freelance et si on lui trouve une mission et qu'il termine sa mission et on lui retrouve une mission derrière, bah forcément il va rester. Donc c'était plus ce côté rétention, mais en fait plus à trouver un business, donc c'était moins lié.
Et côté client, la rétention côté client, ça donnait quoi? C'était vachement lié à la qualité des freelances et à l'expérience, quoi.
Clairement, ouais, donc c'était ça, c'était à la fois quelle est la valeur ajoutée que Comet leur propose d'un point de vue admin, tu vois, faciliter tout ça, mais aussi et surtout la qualité du freelance. Donc quelque chose qu'on contrôlait moins au début et qu'on a tenté de contrôler plus via des qualifications, etc., quoi.
Alors du coup, ce framework A, ça commence par le A de acquisition. Donc quand on a une newsletter indépendante comme Snowball, à ta connaissance, quels sont les différents moyens pour que les gens s'inscrivent à ta newsletter? C'est quoi les canaux d'acquisition?
Bah, moi, le numéro un, le canal numéro un, ça a été LinkedIn.
Ok.
Communiquer sur LinkedIn, parler de ma newsletter. Régulièrement, je fais un post en fait, surtout pour. Alors, j'ai fait au lancement. Donc, quand j'ai annoncé, j'ai dit voilà, je vais lancer une newsletter sur les finances perso, qui serait intéressé. Je crois qu'il y avait eu 1000 personnes. Donc, en gros, ce post-là m'a généré mes 1000 premiers lecteurs, quoi.
Lecteur de la version gratuite.
Ouais, c'est ça. Au début, c'était gratuit. De toute façon, il n'y avait pas de
Ah, ok.
payant gratuit.
Au
C'était
départ, t'as
tout était
lancé en
gratuit au
gratuit.
début.
Ça marche.
Ouais, c'est ça. Et après, régulièrement, je communique sur bah, les avancées, les chiffres, etc. Donc, de façon assez transparente. Et à chaque fois, bah, enfin, les posts LinkedIn ont quand même assez de portée et de reach. Donc, et à chaque fois, bah, ça me fait venir, bah, tu vois, je sais pas, mais c'est variable, mais 300, 400 personnes à chaque fois.
Et du coup, le post que moi j'ai vu, parce que j'ai pas vu les premiers, mais le post que j'ai vu qui est un post point route, en gros, en mode totale transparence,
Ouais.
parce que ça fait partie aussi du branding de Snowball, c'est dire voilà, je vous montre ce que je fais, et donc du coup, vous pouvez bénéficier de mes conseils. Mais du coup, la suite du branding, la logique, c'est d'expliquer exactement comment fonctionne la newsletter et comment elle performe, et du coup, ça attire des gens. Ça, tu le fais tous les combien de temps à peu près?
Alors je m'étais donné un rythme, en gros, tous les mois, quoi, toutes les 3 semaines, je voulais
Ok.
montrer un peu où j'en étais. Et en fait, je le fais aussi régulièrement. À chaque fois, j'ai 2 posts par mois, en gros, en gratuit. Enfin, 2 posts, 2 éditions gratuites par mois que j'envoie à tout le monde. Et à chaque fois, je fais un petit point, voilà où j'en suis, etc., quoi. Mais après, au monde entier, donc sur LinkedIn, c'est plutôt ouais, une fois par mois. Ouais.
Ok. Et si t'avais pas LinkedIn, tu ferais comment pour faire connaître ton newsletter?
Bah, il y a plusieurs. Après, moi, j'ai testé d'autres trucs, tu vois. Par exemple, ce qui fonctionne bien, en tout cas pour moi, c'est, tu vois, sur Quora. Donc, Quora, ceux qui connaissent pas, une plateforme de questions-réponses, en gros. Donc, il y a beaucoup de questions autour de l'investissement. Bah, voilà, j'ai 200 euros par mois, qu'est-ce que je fais? Est-ce que les marchés vont se crasher, etc. Et donc, une bonne stratégie, c'est souvent d'aller répondre à ces gens-là de façon bah, toujours quali, quoi, et très bienveillante et sans trop marketer son truc. Et à la fin, bah, tu glisses, bah, voilà, j'ai aussi une newsletter sur les finances perso. Si ça vous intéresse, venez vous inscrire, quoi.
Ok, et du coup ça fait pas mal de trafic, c'est par rapport à le temps investi.
Ouais, ça, en fait, j'avais testé. Alors, j'ai testé une fois de voilà, répondre à, je sais pas, 5-6 questions. Je m'étais fait un petit batch de questions comme ça. Et ça m'envoie régulièrement, je sais pas, moi, 4-5 inscrits.
Ah, et ça continue, t'es jamais retourné, mais ça continue.
Ouais, ça continue. Ouais, en fait, je me dis si j'avais fait ça, enfin, tu vois, si je faisais ça tous les jours, parce que tous les jours il y a des nouvelles questions et tout, je me dis que ça pourrait vite devenir un bon canal, quoi. C'est juste que j'ai pas le temps là aujourd'hui. Quora est pas mal. Après, il y a aussi les classiques, tu vois, des promotions croisées. Donc,
Ouais, cross promo, ouais.
ouais, voilà. Donc, Mathieu Stéphanie, donc de Generation Do It Yourself, et
Ouais.
qui a lancé aussi la Martingale, donc un podcast sur les finances perso aussi. On avait discuté, il m'a présenté dans sa newsletter, et ben voilà, j'ai eu pareil 200 inscrits grâce à lui, quoi. Donc ça marche super bien, ouais.
Ok. Est-ce que tu envisages potentiellement d'investir pour l'acquisition? Je sais pas, par exemple, moi je vois souvent des pubs pour m'inscrire à la newsletter de Noah Kagan qui traîne sur Facebook par exemple. Est-ce que toi tu envisagerais d'investir là-dedans pour que des gens s'inscrivent à ta version gratuite, tu vois.
Ouais.
Ou alors que tu mettes un petit, voilà, un petit link magnet, genre mes 10 conseils, machin, histoire que les gens ils téléchargent l'e-book ou un truc comme ça. Est-ce que c'est un truc que tu envisages?
Alors, du payant, je l'envisage pas pour l'instant. Ce que j'envisage plus, et alors ça se fait un peu naturellement, bah, c'est du referral, quoi, c'est du parrainage. Sauf qu'aujourd'hui, les gens, ils le font en mode, bah, ils partagent le mail à un pote ou ils disent, oh, tiens,
ouais,
tu
et
dois
toi,
t'abonner à tel newsletter.
tu voudrais un peu l'industrialiser, quoi, le processiser.
Exactement, okay. Ouais, tout à fait. Et puis l'incentiver, avoir potentiellement, tu vois, t'as 2 mois gratuits si tu fais venir quelqu'un. Mais après, voilà, je suis pas forcément fermé à la version payante. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est pas forcément nécessaire.
Après, il y en a gros boost. Alors ça, c'est malheureusement pas trop utile pour les newsletters francophones, mais Product Hunt
Ouais.
booste énormément des tonnes de mecs qui lancent des newsletters comme ça, ou
Ouais,
des
carrément,
Substack.
ouais.
Ça peut être une
Ouais.
idée si vous avez une newsletter en anglais, quoi.
Ça peut cartonner très vite, ouais. Il y a quelqu'un qui a une newsletter qui s'appelle Not Boring, qui s'est lancé sur Product Hunt et il a fait ouais, plus 5 000 abonnés ou 6 000 abonnés
Ouais.
grâce à ça, parce qu'il est devenu numéro 2 ou je sais pas quoi, ou 3 du jour, quoi.
Ouais, c'est ça. Moi, je m'inscris régulièrement à des newsletters que je découvre sur Product Hunt, ouais, effectivement.
Ouais, non, ça marche super bien. Si c'est en anglais, ouais, c'est vraiment top.
Donc du coup, je suppose que tu renvoies vers une landing page.
Ouais, si tu veux,
C'est le truc de base de Substack.
Ouais, exactement, c'est ça. En gros,
Okay.
t'arrives sur une page et t'as un peu comme sur Google, tu vois, t'as juste le champ avec rentre ton email et inscris-toi à Snowball avec le call to action. Et sinon, t'as une petite phrase dessous qui te dit j'ai envie de lire d'abord ce qu'il y a écrit. Et donc, c'est comme ça que les gens, la première fois que t'arrives sur Snowball, qu'est-ce que tu vois, quoi. Et donc, s'ils cliquent sur je veux en lire plus, et là ils arrivent sur plutôt la partie blog où ils voient les différents articles que j'ai écrits, etc. Avec ensuite un call to action sur chaque article en haut à droite, tu peux, voilà, t'inscrire à la newsletter, quoi.
Ok, alors du coup, pour les newsletters associées à un business, comme avec Comet par exemple, la newsletter de Comet,
Ouais.
comment les gens ils se retrouvent dans la liste de la newsletter Comet?
Alors, il y avait plusieurs possibilités. Déjà, c'est une entreprise qui créait son compte. Bah, voilà, on lui disait, bah, si tu crées ton compte, est-ce que tu veux t'abonner à la newsletter? Donc, ça, c'était un peu le premier endroit où elle pouvait s'abonner. Après, nous, on avait mis un lead magnet sur le blog, donc ouais, qui fonctionnait, mais enfin, c'était pas la folie, quoi, parce qu'on n'avait pas un trafic de malade sur notre blog à l'époque. Et ensuite, c'était beaucoup de communication sur les réseaux sociaux aussi, tu vois. On sortait une édition, bah du coup, on partageait sur Twitter et on mettait, bah, voilà, cette semaine, on a parlé de ça, 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 ça.
D'accord, donc en fait, tu fais une com avant d'envoyer la newsletter?
Non, nous, c'était après. Donc, on envoyait à notre base et ensuite, on disait, ben voilà, cette semaine, on a parlé de ça. Si vous voulez recevoir la prochaine édition dans 2 semaines, ben, abonnez-vous, quoi.
D'accord, donc il faut avoir une version HTML pour les gens qui te contactent et qui disent,
ouais.
J'aimerais bien lire la newsletter dont tu parles. Ça m'est déjà arrivé de faire ça.
Ouais.
Il y a quand même pas mal de gens qui viennent et qui disent, ah, ben, ça m'intéresse, est-ce qu'il y a une version web ou un truc comme ça, quoi.
Ouais, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'en fait, on utilisait HubSpot pour envoyer les emails, donc une solution de marketing automation que beaucoup connaissent.
Ouais.
Et c'était pas, enfin, il y avait une version HTML, mais c'était pas ouf. Et en fait, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on créait des blog posts, en fait, directement de la newsletter. Donc, on copiait-collait la newsletter sur le blog et en plus, ça créait du contenu parce que c'était pas une newsletter en mode curation. C'était vraiment, tu vois, il y avait un peu des analyses, vraiment des résumés un peu poussés d'articles. Donc, ça collait bien au format blog.
Ouais. D'ailleurs, à ce propos, donc Comet est une marketplace, donc il y a le côté freelance, le côté client, et de manière générale ça va être la même problématique pour tous les gens qui ont un business et une newsletter. Est-ce qu'il faut segmenter sa newsletter en fonction des typologies de clients, en fonction de ce qui les intéresse? Par exemple, pour Comet, il y a eu un moment, je sais pas si c'est toujours valable, mais il y avait la newsletter du dimanche soir sur les nouveaux modes de travail.
Ouais.
Est-ce que vous l'envoyez à tout le monde, que ce soit les freelances ou les clients? Ou est-ce que vous faisiez une segmentation? Comment ça se passait?
Bon, alors c'était essentiellement aux clients, sauf que c'était pas du tout fermé aux freelance. Donc les freelance qui allaient sur notre blog par exemple et qui voyaient qu'on avait une newsletter, bah, ils s'inscrivaient. Sachant que c'est des sujets qui les intéressent bah, aussi. Hein. Enfin, de toute façon, les freelance, c'est un peu des mini-entrepreneurs, des mini-entreprises. Donc ils étaient vachement intéressés par ça, mais c'était pas le gros focus pour nous pour l'acquisition, quoi.
D'accord.
Alors nous, c'est vrai que c'était un sujet très vaste et qui pouvait s'appliquer aux deux, mais souvent c'est un peu difficile de bah, si t'as vraiment une marketplace avec deux deux typologies vraiment différentes. Moi, je conseille plus de, voilà, de séparer les newsletters, sachant que c'est des sujets qui vont pas forcément intéresser tout le monde. Ouais.
D'accord, très bien. Une newsletter associée à un business, bah, je suppose que tu es d'accord avec moi puisque c'est ce que tu faisais. Juste envoyer une fois par mois les news de la société, c'est quand
Ouais.
même assez nul.
Ouais, ça
Tout le
marche
monde
pas.
s'en fout complètement. Et faut vraiment apporter de la valeur avec ces newsletters. Donc là, pour le coup, on retourne un petit peu sur le branding. On réfléchit aux thématiques qui sont associées et après on repart, on redescend vers les canaux de communication. Et
Ouais.
du coup, la newsletter, on est ici, bah voilà comment on pourrait exprimer une de ces thématiques dans la newsletter.
Ouais.
Donc c'est comme ça que vous faisiez.
C'est
Est-ce
ça.
que du coup, il y aurait eu potentiellement d'autres moyens pour faire rentrer les gens dans la newsletter? Parce que ça a quand même, j'ai l'impression que cette newsletter, alors j'avais pas suivi à 100%, mais j'ai l'impression que cette newsletter était quand même un des éléments de différenciation qui vous faisait ressortir un petit peu du
Ouais.
paysage et qui a créé de l'intérêt pour Comet quand même.
Ouais, non, elle marchait super bien. Au moment, je sais plus, il y avait quasiment 5000 inscrits, je crois, un an après qu'on l'ait lancé, sans qu'on fasse trop, 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 trop d'efforts d'acquisition. Donc, il y avait quand même beaucoup de bouche à oreille qui fonctionnait bien. Et pareil, tu vois, on n'avait pas du tout industrialisé le référent et tout.
Ok.
Donc ça marchait bien, mais en effet, l'idée, c'était vraiment de produire du contenu à forte valeur ajoutée et pas juste, comme tu dis, bah voilà, les news ou alors juste une curation des meilleurs articles qui nous ont plu. Enfin, se dire que après avoir lu cet email, les gens, bah voilà, ils ressortent avec, ah, ok, bon là j'ai compris un truc, là j'ai compris aussi un truc, j'ai pas besoin d'aller fouiller dans tel autre article. C'est un peu le conseil que je donne aux gens aussi sur quand on communique sur les réseaux, tu vois, quand on voit sur Twitter par exemple que tout ce qui est fil de tweet fonctionne super bien parce que bah t'as pas besoin de cliquer sur le lien, t'as juste à lire 4 ou 5 tweets et t'as appris un truc quoi.
Ouais.
Et ça marche super bien, c'était la même idée. Donc moi c'est ce que je conseille aux gens, c'est que voilà, si tu crées du contenu, se dire est-ce que déjà un toi c'est un truc que t'aurais lu avec intérêt, c'est toujours le premier filtre qui fonctionne bien en général, et tu dis ah ouais non ça franchement bah, je m'en fous quoi. Et ça c'était le premier filtre, et nous voilà, c'était Benjamin qui écrivait la newsletter, Benjamin Perrin, et à chaque fois moi, j'avais hâte de la recevoir parce que je kiffais trop la lire, quoi. Et ça, c'était un premier bon signe, quoi. Donc, c'est créer de la valeur. De toute façon, c'est du bon sens, quoi.
Ok, alors j'ai une question un peu bête là, mais qui finalement, j'ai l'impression que ça revient souvent chez les gens qui lancent une newsletter.
Ouais.
Il vaut mieux faire du double opt-in ou du simple opt-in en fait? Tu vois, le problème du double opt-in, bah, c'est que les gens qui cliquent pas dans l'email de confirmation, bah, du coup, ils seront jamais dans ta newsletter.
Ouais.
Donc il y a une petite perte à l'acquisition, tu vois. Mais en même temps, ça filtre. Donc des gens qui, voilà. Qui ont fait une faute ou qu'on finalement s'était pas spécialement intéressé au truc,
Ouais.
bah du coup ça va se répercuter sur tes chiffres et ça va faire que bah du coup tu seras peut-être pas forcément classé, tu auras des taux d'ouverture qui seront meilleurs, des trucs comme ça, tu vois. Donc c'est un truc assez bête comme question, mais du coup oui, je suppose qu'il y a plein de gens qui se posent la question, est-ce qu'il vaut mieux double ou simple quoi?
Ouais, moi je suis plus fin, j'avoue que là je suis plus sur c'est quoi le plus simple pour l'utilisateur, et je me dis bon, moi ça me saoule les double opt-in personnellement, et donc je comprends les raisonnements qu'il y a derrière.
Ok.
Ça peut être cool aussi, tu vois, pour éviter que ça tombe dans les spams. Donc les gens ils vont checker les spams si jamais ils cherchent le mail de validation. Sauf que là j'ai l'impression de ne pas avoir de problème où je tombe dans les spams. Substack gère plutôt bien cette partie-là. Et donc là, ouais, je me dis, ok, j'ai envie que ce soit le plus simple possible, et voilà.
Pas de friction, ok, ça marche.
Ouais, exactement.
Du coup, ça pourrait être intéressant de segmenter bah, ta newsletter. Je sais pas ce que tu en penses, mais tu pourrais, bah, on va prendre l'exemple de Snowball, ça pourrait être, tu pourrais envoyer un premier email en leur demandant, bah, ils sont intéressés plus par quoi ou par quoi, histoire que tu puisses les taguer, même si tu n'en fais rien pour commencer, peut-être
Ouais.
ça peut être intéressant d'avoir les tags. Est-ce que c'est un truc auquel tu as pensé?
Là, pour l'instant, j'ai pas vraiment pensé. Je suis plus dans l'optique de chercher à comprendre quel est plutôt le dénominateur commun à tous ces gens,
Ouais.
plus que de segmenter, parce que bah, déjà, un, j'ai vu que j'étais pas à 100% dessus, j'ai pas trop le temps de le faire. Donc ça, c'est la ressource temps, elle est importante dans l'équation. Et deux, aujourd'hui, si je voulais faire ça, il faudrait que je le fasse un peu à la mano sur une spreadsheet, parce que Substack permet pas de gérer, tu vois, les envois à différentes personnes, de taguer. Donc un peu galère, mais en effet, je pense que là, je vais commencer à faire un peu comme tu dis, de faire un peu des questionnaires, qu'est-ce qui intéresse les gens, etc., juste pour en savoir un peu plus sur qui sont mes lecteurs. Et oui, je crée, je pense qu'à partir de là, je pourrais commencer à créer des tags, et peut-être que je m'en servirai si demain j'utilise une nouvelle plateforme ou autre, mais l'objectif est plutôt moyen terme que court terme, quoi.
Ok, très bien. Alors passons maintenant à l'étape activation. Est-ce que tu envoies un email de bienvenue une fois que les gens sont inscrits?
Ouais. En gros, une personne s'inscrit et là, le but, c'est de la convertir à la version payante, si tu en as une,
Ah, dès le
évidemment.
début?
Ouais.
Dès l'email de bienvenue?
Ouais.
Ah, ok.
Ouais. Dès l'email de bienvenue, parce qu'en gros, le problème, c'est que quand tu arrives sur Substack, ok, tu vois que la newsletter, il y a une partie gratuite, une partie payante, très bien. Mais par contre, t'as du mal à voir un peu quelle est la valeur ajoutée de la version payante, parce qu'en gros, Substack te permet d'avoir 3 bullet points pour expliquer qu'est-ce que vont obtenir les gens s'ils s'abonnent à la version payante. Et sachant que moi, c'est quand même assez, il y a quand même beaucoup de choses à dire, donc j'ai décidé dès le premier mail, d'expliquer vraiment en détail, si tu t'inscris, t'as accès à ça, t'as accès à ça, t'as accès à ça, etc., etc., et de bien l'expliquer plus en détail, quoi. Tu vois, j'ai même écrit des articles complets sur expliquer pourquoi j'ai fait la version payante. Pareil, je le partage aux gens quand ils s'inscrivent. Voilà, qu'ils aient le max d'infos pour prendre la décision la plus éclairée possible, quoi.
D'accord, ok. Et du coup, à ce propos-là, on peut considérer que l'activation, déjà, ça va être de s'abonner à la newsletter gratuite.
Ouais.
Toi, tu as ta newsletter, tu as ta landing page. Voilà, je m'abonne à la newsletter gratuite. On va dire que pour une newsletter, l'activation, c'est ça.
Ouais, c'est ça,
En dehors d'une newsletter, comme sur Substack, par
ouais.
exemple, si tu avais juste à remonter une activité, voilà, un SaaS, n'importe quoi,
Ouais.
tu ferais un email de bienvenue à chaque fois, assurément?
Bah, soit tu fais un email de bienvenue très bien, soit tu fais vraiment un message directement sur la page web en disant merci, voilà qu'est-ce qui va se passer ensuite, quoi, parce que y a rien de pire que de mettre ton email et juste de pas savoir ce qui s'est passé, quoi. Et ça arrive assez souvent. Je me retrouve sur des sites et du coup je mets mon mail, je reçois pas de mail, je sais pas trop
Ok.
qu'est-ce qui va se passer. Je pense que c'est hyper important de donner un peu ce retour. Ok, j'ai fait une action, mais qu'est-ce que je vais avoir en retour? À quoi je dois m'attendre, quoi.
Ok, très bien. Et alors du coup, ça donne quoi sur Snowball, la proportion de gens qui sont inscrits à la version gratuite et la version payante?
Alors, il y a 3 400 qui sont en gratuit et 600. Alors, aux dernières nouvelles, je crois que j'aurais tout à l'heure, je dois avoir 600, autour de 650 qui sont en payante. Alors, ouais, il y a une variante parce que Substack me compte les abonnés payants parce que aussi j'ai une version gratuite pour la version payante pour les étudiants. En gros, tu vois, ceux qui ont pas trop
Ouais.
la thune pour se payer, je leur file un coupon d'un an et ils y ont accès et Substack me les compte comme étant des payants, mais je dois en avoir une trentaine. Donc en gros, je dois avoir 620 vrais abonnés payants sur 3 400, quoi.
D'accord. Et de manière générale, c'est toujours ça se passe toujours comme ça. Les gens s'inscrivent au gratuit,
Ouais.
le laissent passer plusieurs fois et après le prennent en payant ou il y en a qui prennent en payant direct?
Il y en a pas mal qui prennent en payant direct. Ça arrive régulièrement. J'en ai plusieurs par semaine. Voilà, je vois qu'il vient de s'abonner et je vois juste derrière, un nouvel abonné payant, quoi. Donc c'est assez régulier, mais la majeure partie, c'est des gens qui étaient déjà inscrits. Je fais une édition gratuite, donc ils la reçoivent. J'explique un peu ce qui s'est passé pour les abonnés payants, tu vois, les articles que j'ai écrits, qu'ils ont maintenant accès à une communauté, etc. Enfin, je parle un peu de tout ça, et là, ça convertit quand même beaucoup plus et beaucoup plus rapidement, quoi. Enfin, pas beaucoup plus rapidement, mais il y a beaucoup plus de gens qui sautent le pas après avoir reçu 2 3 éditions gratuites, quoi.
D'accord. Quand tu écris ton texte pour ta landing page, qu'est-ce que tu as en tête pour activer les gens, pour qu'ils s'inscrivent à la version au moins gratuite, quoi?
C'est assez limité sur Substack ce que tu peux faire. Tu vois, tu peux pas faire une landing page et mettre
Ouais.
des testimonials, enfin des témoignages clients. Tu peux pas, tu peux pas mettre des exemples de qu'est-ce que tu as envoyé dans le passé. Donc en gros, si tu veux, moi ma landing page à moi, c'est plus ce premier email que tu reçois. Et du coup, là-dedans, tu vois, j'ai mis un peu les retours que j'ai eu des utilisateurs, des bons retours que j'ai eu. Je présente, bah voilà, combien il y a d'abonnés payants, il y en a voilà, plus de 620 qui payent, donc c'est une preuve que voilà, bah en fait, ils vont pas être 10 gars se battre en duel qui payent, il y en a quand même 600,
Ouais,
donc c'est
donc
aussi
il y
une
a un
vraie
côté
preuve.
social proof un peu avec le nombre de gens qui sont dedans, quoi.
Ouais, t'as ça, et puis après, c'est vraiment leur détailler, c'est quoi la valeur ajoutée quand tu vas t'inscrire, quoi, qu'est-ce que tu vas recevoir, à quelle fréquence. À quoi tu vas avoir accès, tu as accès voilà, à une communauté, tu as accès à un article par semaine, tu as accès à une application compagnon, enfin plein de trucs quoi. Mais j'ai encore plein de trucs à faire et à bosser. Et idéalement, ce que j'aimerais faire, c'est ce que tu viens de dire, c'est vraiment d'avoir une vraie landing page comme tu peux avoir ailleurs. Donc si je le fais, je devrais le faire en dehors de.
Et tu intègres Substack
Ouais,
dedans.
c'est
Ok.
ça, ouais, tu peux faire ça.
Et alors, du coup, moi, ma question, c'est toujours par rapport au framework. Ah, en fait, quelqu'un s'abonne à ta version gratuite, il est activé, mais il n'a pas encore payé. Il passe le pas de la version payante, ça y est, il est passé à l'étape revenu. Il y a bien sûr des gens qui sautent le pas direct, qui ont réussi à être activés juste parce que tu as raconté sur ta landing page. Mais la question, c'est que du coup, c'est quoi l'objectif de la landing page? C'est d'essayer que les gens s'inscrivent à la version gratuite, genre en mode baby step, ou qu'ils s'inscrivent ou qu'ils payent directement. C'est quoi ton objectif quand tu écris le texte de la landing page? C'est objectif conversion ou objectif activation?
Si j'avais une version, une vraie version de la landing page, je te dirais que l'objectif, ce serait plus la conversion.
D'accord, tu préférerais ça directement.
Ouais,
Alors en fait, si je comprends bien, du coup, toi, tu veux faire payer un service et finalement. C'est pour ceux qui ont des réticences, et ben là il y a une version activation par défaut qui est la version gratuite, quoi.
Ouais, c'est
C'est plutôt
ça,
comme ça qu'il faut le
ouais,
voir.
c'est comme
Ok,
ça que je le
d'accord.
vois, moi, en effet, ouais.
Si t'arrives pas à les activer avec ce que tu racontes, et ben voilà, il y a
C'est ça.
un email. Ok, je
Ouais,
comprends.
c'est un peu la version freemium, quoi. Voilà, t'as pas réussi à le convertir sur ton site, mais tu as une version gratuite et tu pourras le convertir demain, quoi.
Finalement, ça se fait au bout de, voilà, tu me disais 2-3
Ouais,
newsletters.
j'ai pas vraiment les. Enfin, tu vois, encore une fois, c'est ça aussi un des problèmes de Substack, c'est t'as très peu de données. Donc t'as du mal à voir à partir de quand les gens convertissent, etc. Donc c'est un peu là, c'est un peu au doigt mouillé, quoi, que je te dis ça. Mais c'est un ressenti quoi que je pense c'est pas forcément loin de la réalité.
Ok. Dans le cas d'une newsletter associée à une autre activité, évidemment, la newsletter peut aider à l'activation des clients potentiels. Hein. Forcément, quelqu'un, il n'est pas client, il s'inscrit à la newsletter. Bon, bah, c'est vraiment le canal, la possibilité de l'activer et de lui faire passer les valeurs, la mission et tout ça, quoi. Alors là, je ne parle pas de drip marketing, hein, je ne parle pas de séquence email, je parle juste de. Bah, pareil, l'exemple de Comet est très bien. Juste du contenu à valeur ajoutée et ça peut créer de l'activation quoi. Dans ces newsletters, qu'est-ce qui est important de faire passer? Là, je parle au CMO, tu vois, je parle à la personne en charge du branding, tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui voudrait du coup se servir de sa newsletter hebdo pour activer des gens qui ne sont pas encore clients?
C'est une bonne question, je dirais. Enfin, ça dépend beaucoup du business, mais moi je vois plus la newsletter comme un. C'est une façon de faire rayonner à la fois ta vision, ta culture en interne, etc. De montrer, bah ok, c'est quoi tes valeurs, tout ça, au travers de contenu. Tu vois, nous, Comet, c'était de faire rayonner le futur du travail, quoi, en gros, parce que c'est un truc auquel on croit. Et du coup, l'idée, c'était de se dire, ok, on va créer du contenu autour de ça. Donc c'était pas du tout du contenu pour tu vois convertir directement un prospect en client. C'était pas en mode ben voilà on te présente 10 freelances ils sont cool bah vas-y bouclez quoi. C'est pas en mode comme ça. Je sais qu'il y a des boîtes qui sont beaucoup plus grosses qui en ont qui en ont une dizaine quoi qui sont différentes et tu t'abonnes un peu à celle que tu veux et tu choisis quoi. Mais en tout cas, si je devais faire un choix au début pour une start-up ou une petite boîte, je dirais que c'est plus intéressant. Un peu comme fait Alan, ils le font. Alors, ils n'ont pas de newsletter, eux, c'est la newsletter de Jean-Charles, donc un des cofondateurs, qui du coup, lui, partage beaucoup de voilà sa curation ou sa vision des choses sur des sujets autour de comment tu crées une entreprise, comment tu le futur de la tech, donc quand même très orienté futur. Parce que voilà, Alan, c'est une boîte qui a envie de construire quelque chose de plus large que ce qu'elle est aujourd'hui et qui est très dans tout ce qui est organisation d'entreprise, nouvelle vision de la hiérarchie en interne, de communication. Et souvent, Jean-Charles, il partage tout ça dans cette newsletter, quoi.
Ok, alors du coup, si je comprends bien, la newsletter, c'est vraiment l'expression du branding, quoi.
Ouais, je le vois un peu comme ça. Ouais. Après, je suis biaisé, hein, parce que c'est un peu mon. J'ai une tendance à être plus côté branding que marketing vraiment pur opérationnel, mais ouais, je le vois plus comme ça, moi.
Bah écoute, moi, tu vois, depuis un petit moment maintenant, je m'oriente de plus en plus vers le branding parce que je me rends compte de l'impact que ça a sur le framework art, justement. En termes d'activation, parce que là on parle d'activation, activée avec le branding dans une newsletter, tu vois. Et alors du coup, si tu devais donner un conseil à des gens qui ont une newsletter comme ça et voilà, qui savent pas trop quoi raconter finalement, finalement il faut qu'ils retournent au branding, voilà. Mais comment toi tu pourrais travailler rapidement le branding d'une activité?
Toujours très intuitif, je trouve, au début, parce que une marque, en tout cas, quand tu es une boîte que tu viens de lancer ou une activité que tu viens de lancer, c'est quoi? C'est un peu un prolongement de toi, quoi. En gros, c'est toi, ta vision
D'accord,
du
donc tu pars
monde.
des fondateurs en
Ouais,
fait, c'est ça?
c'est exactement ça. Tu parles des fondateurs, c'est quoi leurs valeurs, qu'est-ce qu'ils veulent créer, quel est le type de culture qu'ils veulent créer, etc. Et de se dire, on va construire en tout cas une marque qui rassemble un peu tout ça, quoi. Et après, il n'y a pas de plateforme de marque. Nous, on l'a fait, je crois, 1 an après ce travail-là, vraiment de mettre un peu sur papier, parce qu'on avait déjà
Ah,
compris.
c'est toi qui avais organisé ça, le mettre sur papier le truc?
Ouais.
Ou vous êtes passé par des externes?
Non, ça on l'a fait. Alors on a été un peu accompagné par parce qu'on rebossait la. C'était l'époque où on s'appelait encore Skilly. C'était
Ouais.
au tout début. Du coup, il y a eu un rebranding. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un rebranding parce que la boîte avait quelques mois, donc c'est pas en mode Uber qui va changer son logo ou son nom. Mais du coup, ouais, on avait bossé en interne sur ça et on s'était fait un peu accompagner par aussi notre agence design, donc Lord.
Ok,
Qui avait bossé
donc
avec nous
c'est la
sur.
partie identité visuelle,
Ouais.
genre toi tu as posé les trucs sur le papier, et la partie identité visuelle, ça a été développé
Par
par
l'ordre.
quelqu'un d'autre.
Ouais,
Ok.
c'est ça.
Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'il y avait sur ton papier? Il y avait donc les fondateurs, les valeurs des fondateurs,
Ouais, en
et
gros.
après t'avais quoi? T'avais genre, c'est quoi le motto, ce genre de truc? C'était quoi?
C'était ça, ouais. C'est quoi nos valeurs en interne, ce à quoi on croit vraiment. Il y avait le classique, c'est quoi notre positionnement par rapport à la concurrence, tu vois, est-ce qu'on
Ouais.
est challenger, est-ce qu'on est juste la même chose mais en beaucoup mieux, etc. Il y avait c'est quoi notre vision du monde, tu vois, notre vision du monde c'était on vit aujourd'hui dans un monde où en fait le monde du travail est quand même assez rigide et nous notre vision c'est quelque chose de beaucoup plus flexible, de beaucoup plus fluide et de plus beaucoup plus épanouissant pour les gens
Ok. Du coup, la stratégie de contenu est sur la thématique des nouveaux modes de travail vient
Ouais,
directement de la vision du monde.
c'est ça, ouais, exactement. Ouais. La vraie valeur ajoutée de poser sur papier, c'est quand tu commences à grossir, que tu commences à avoir des partenaires et que tu dois partager ça, des nouveaux employés, des nouveaux arrivants, des nouveaux partenaires, etc., etc., quoi. Donc, c'est pour
D'accord.
ça qu'au début,
Être intelligible tout de suite,
ouais, c'est
quoi.
pour ça que pour moi, au début, tu vois, je trouve pas que c'est pas forcément un boulot très très nécessaire, sauf si, évidemment, sauf si t'es, je sais pas, moi, tu lances une nouvelle marque de fringues. Enfin, ouais, t'as besoin d'avoir quand même une identité de marque forte un peu dès le début, quoi.
En fait, je pense que ça dépend du marché, en
Exactement,
fait.
ouais, c'est ça, ouais.
Si t'es genre, moi c'est un truc dont je parle souvent, mais si t'es sur un océan rouge ou océan bleu, quoi, si t'es tout seul, c'est pas nécessaire de faire ce travail immédiatement dès le début.
Ouais.
Ça deviendra nécessaire parce que ça fera une barrière à l'entrée. Par contre, si t'es océan rouge et que t'arrives tu fais un truc que des gens font
Ouais,
déjà,
c'était une
t'es
commodité,
obligé,
ouais,
quoi.
tu dois te démarquer, ouais, c'est sûr.
Ok, très bien. Alors, en ce qui concerne l'étape rétention. J'ai pas mal de questions bêtes. C'est quoi un bon taux d'ouverture pour une newsletter associée à un business?
Si tu tapes ça sur Google, tu vas trouver des chiffres. Je me souviens de mes deux têtes. On te dit que quand c'est au-dessus de 30%, c'est bien. C'est compliqué. Ça dépend aussi de la taille de ta base. Tu vois, si tu as 200 personnes, c'est très facile d'avoir, je sais pas, moi, un 60-70% de taux d'ouverture. Et si tu as 2 millions de personnes, ça devient plus compliqué. Donc il y a aussi une échelle à voir. Moi, j'aime bien me dire que même si tu grossis, si tu arrives à dépasser les 40%, enfin, c'est déjà très bien, quoi, pour une newsletter, en tout cas associée à un business,
Ouais.
gratuite en plus. Enfin, je trouve que c'est un très très bon taux, quoi. Après,
D'accord, rester au-dessus de 40%
ouais, là,
et
mais
aller mieux,
ouais,
quoi.
pour moi, c'est genre très bon, quoi. Donc, si t'es à 30, pour moi, c'est bien aussi, quoi. C'est en tout cas sur des grosses bases, quoi. Encore une fois, tu vois, quand tu dépasses les 4 000, 5 000 personnes, je pense que c'est un très bon taux, ouais.
C'était quoi à l'époque des newsletters du dimanche, c'était quoi le taux d'ouverture de Comique?
Bah, ça a oscillé. En tout cas, au début, je te dis, on avait enfin, très bon taux, parce que quand il y avait 500 personnes, on était autour de, ouais, 70, etc. Et puis après, quand on est arrivé à 5 000, c'est tombé, ça a oscillé entre 33, 35 et parfois 45, selon les titres de l'email ou des trucs comme ça.
Ah bon, attends, on va en reparler de ça. Ok.
Mais voilà, quoi.
Mais alors du coup, ouais, pour une newsletter payante comme Snowball, là, je suppose qu'on n'est pas dans les, on n'est pas dans les mêmes chiffres.
Ouais, la newsletter payante, alors si tu prends que la base des gens qui payent, tu dépasses, voilà, moi je suis très régulièrement entre 75 et 90%, quoi, en gros, des gens qui ouvrent les
Ok.
emails.
Et les relous comme moi qui veulent pas payer, du coup, ils ouvrent à quel taux?
Bah, alors là, c'est assez ouf, c'est hyper variable.
Ah, ça dépend de l'objet en fait, quasiment quoi.
Ouais, ça dépend vraiment du thème, tu vois. Je me souviens, bah, j'avais fait une édition sur les Lego, là, parce que tu peux investir dans les Lego,
Ouais.
et ça avait, genre, ouais, j'avais eu 70% de taux d'ouverture, alors que la base était, je sais pas, il devait y avoir 2 500 personnes à l'époque, donc c'était énorme, quoi. Et à côté de ça, j'ai fait une édition sur l'immobilier où il y avait, je crois que j'ai eu 33% de taux d'ouverture, quoi. Donc, mais ce qui est marrant, et ça c'est très drôle, tu vois, en gros, tu peux mettre un like si t'as liké l'édition, quoi, en gros. Et
Ouais.
par exemple, sur les Lego, je crois que j'avais eu, alors je sais plus, mais je dis n'importe quoi, mais dans les 20 likes, parce qu'en fait c'est un peu chiant, le like, parce que tu dois aller sur le site, donc tu peux pas le faire directement depuis le mail, donc peu de gens le font.
OK.
Et du coup, j'en avais eu 20, alors que le taux d'ouverture était gigantesque. Par contre, sur l'immobilier, qui était beaucoup plus bas, j'en avais eu x4 ou x5 en termes de likes. Donc, je pense que le taux d'ouverture, faut pas toujours le regarder comme étant la métrique numéro 1. Parce que moi, je m'en fous un peu, tu vois, s'il y a que 30% de la base qui ont ouvert le truc sur l'immobilier, mais en tout cas, c'est 30% que ça les intéresse vraiment. Bah voilà, ça me dérange pas. Je me dis, bah, les 70%, bah, ouais, peut-être que voilà, c'est pas leur truc, ou quoi. Après, moi, c'est particulier, tu vois. C'est
Ouais,
très thématique
ouais.
par édition, quoi.
Après, moi, tu vois, je fais attention au taux d'ouverture, vraiment dans l'optique rétention, c'est-à-dire qu'en fait, si je suis trop bas, j'ai peur d'être considéré comme un email pas si intéressant,
Ouais.
ou alors que ce soit la preuve que je suis déjà considéré comme un email pas intéressant et que je suis déjà dans l'onglet promotion ou je suis déjà en spam, tu vois. Et en fait, c'est soit la preuve qu'il y a un problème dans ma rétention, soit la preuve que potentiellement il peut y avoir un problème dans ma rétention, tu vois.
Ouais, non, ça peut être un bon
Donc
signe,
voilà, c'est pour cette raison que je le surveille,
ouais.
effectivement. Mais si, effectivement, c'est pas ça qui, c'est pas le taux d'ouverture qu'il faut mesurer dans un optique de performance, on
Ouais.
est
Ouais, non,
d'accord.
mais c'est une métrique à surveiller, ouais, c'est sûr.
Ouais. Et du coup, tu parlais d'objets. Alors, du coup, on en vient aux bonnes pratiques. Bah, comment on fait? Comment on fait? C'est quoi les bonnes pratiques du coup pour surveiller ça et pour l'augmenter, quoi, ce taux d'ouverture. Alors, il y a les problématiques techniques qui, du coup, sont gérées. Bah, toi, tu t'en fiches un peu parce que c'est géré par Substack.
Ouais.
Est-ce que tu as eu à t'y pencher pour Comet, éventuellement, les trucs genre des KIM, cleaner la base régulièrement, ce genre de trucs?
Ouais, on le faisait régulièrement, ça, par trimestre, quoi, on faisait un petit cleaning. Après, ouais, sur les objets, je sais pas si la bonne pratique, c'est toujours de créer un peu du mystère et de pousser les gens à ouvrir, quoi.
C'est l'énigmatique, ouais.
C'est l'énigmatique, ça, c'est sûr.
Vous allez pas le croire, trois petits points.
C'est ça. Alors nous, ouais, chez Comet, en tout cas, on faisait rarement ça. C'est souvent Benjamin faisait surtout des il faisait beaucoup de jeux de mots, qui étaient assez
Ok.
marrants dans les trucs, donc plus sur une note d'humour, quoi, plus que le côté un peu putaclic, quoi. qui marchait bien, du coup. Moi, sur Snowball, ouais, j'essaye de. C'est plus, ouais, ce côté un peu mystérieux. Alors, ça dépend des éditions, tu vois. C'est les éditions du dimanche, ouais, pareil, j'essaye un peu de. Les éditions du dimanche, pardon, c'est pour les abonnés payants. J'essaye de faire j'essaye de faire un truc un peu marrant, ou alors un peu comme faisait Benjamin, quoi. Et après, sur les éditions qui sont plutôt des guides, en fait, souvent assez descriptifs, mais en essayant soit de garder une touche d'humour, soit de rester d'avoir un côté mystérieux un peu marrant, quoi.
Ok.
Alors, je sais pas si c'est une bonne pratique, mais le côté emoji, en tout cas, ressort toujours plus quand tu as reçu
Ouais.
40 mails. Bah, si tu as un emoji un peu marrant, il ressort, quoi.
À quel moment du jour ou de la semaine il faut envoyer sa newsletter?
Je pense que si tu regardes les stats, il y a des patterns qui vont ressortir. Mais moi, personnellement, j'ai déjà envoyé des newsletters le dimanche soir à 23h qui ont eu un taux d'ouverture super bien. J'ai déjà envoyé une newsletter en soirée à 16h30. Ou, enfin, ouais, en général, c'est le moment où tu as quand même ta boîte mail qui est pas mal chargée, qui a eu des bons taux d'ouverture aussi. Donc, franchement, il y a pas de. J'ai pas l'impression d'avoir un. Je trouve que le dimanche soir, ça marche toujours bien. Ça, c'est un truc. Tu vois, c'est ce qu'on faisait avec Comet. Bah, en fait, ta boîte mail est moins chargée, quoi. Tu reçois moins de choses le dimanche soir.
Ouais, c'est ce que je fais aussi. Mes newsletters, j'envoie le dimanche soir. Mais c'est pareil, en fait, c'est juste histoire de pas être au moment
Où il y a tout le
où.
monde, ouais. T'es pas dans l'embouteillage, quoi.
Toi, ce que tu me dis, c'est, ce qui m'a compris, c'est juste essayer de faire bah, comme dans le marketing, c'est-à-dire pas comme les autres, quoi.
Ouais, en général c'est ça, hein. C'est quand tu te démarques un peu, bah t'as plus d'espace pour toi, quoi.
Et est-ce que du coup, est-ce que tu demandes. Est-ce que tu fais le truc où tu demandes aux gens de glisser l'email dans l'onglet principal de Gmail, par exemple?
Ouais, je l'ai fait récemment ça parce que j'ai eu une ou deux personnes qui m'ont dit ah ouais, ton mail était passé en promotion, quoi.
Ok.
Et donc là, à la dernière édition que j'ai fait où j'ai envoyé à tout le monde, j'ai dit aux gens bah enfin, j'ai expliqué comment le faire passer en onglet principal et voilà quoi. Et je vais le faire régulièrement. Je pense que je le ferai une fois tous les 2 mois, tu vois, histoire de pas faire chier les gens à chaque fois et répéter. Mais ouais, il faut le faire régulièrement. Ouais.
C'est quoi ton taux de churn sur ta newsletter payante?
J'ai eu, je crois, 25 désinscriptions. Ouais, c'est ça. J'en ai eu 25, sachant qu'il y en avait, c'était. Enfin, à chaque fois, j'ai eu des bons retours, tu vois, en mode, ouais, très cool ta newsletter, sauf que là, bah, j'ai pas le temps de me consacrer tu vois, à mes finances perso de façon un peu active. Donc, bah, je reviendrai plus tard, ou voilà, des trucs comme ça. Et après, la majorité, c'est du billing failed. Et là, en général, les gens, ils prennent pas trop le. Ils ont sûrement la flemme de remettre leur carte et tout. Donc, je me dis que c'était peut-être. Ils n'étaient pas forcément hyper intéressés, quoi.
Qu'est-ce que ça raconte la newsletter de Comet aujourd'hui?
Bah aujourd'hui, la newsletter de Comet, c'est essentiellement du transactionnel, donc il n'y a plus vraiment on fait plus du tout en fait depuis à peu près un an. En fait, vu qu'on a beaucoup moins de problématiques d'acquisition côté entreprise, parce que l'acquisition est faite en majorité par les équipes sales, donc les commerciaux.
Ok, ça, en fait, ça a switché en fait.
Ouais, on a switché vers du.
Vous gérez ça en outbound maintenant, et du coup, la newsletter a plus autant d'importance, quoi.
Ouais, c'est exactement ça. Parce que je trouve personnellement un peu dommage parce que j'aimais bien cette newsletter et je pense qu'elle avait quand même une vraie valeur, mais voilà, pour
Oui,
moins de ressources.
au niveau puissance de la marque,
Ouais.
effectivement.
Ouais.
Étape référence. As-tu connaissance de programmes de référence mis en place pour une newsletter payante. Donc, tu m'en as parlé tout à l'heure, tu as dit que tu allais peut-être te pencher là-dessus.
Ouais.
Dire, voilà, essayer d'incentiver les gens pour avoir genre 2 mois gratuits si vous ramenez quelqu'un et compagnie.
Ouais.
Donc, ça, c'est un truc que tu as en tête. Est-ce que tu l'as vu quelque part déjà?
Il y en a pas mal sur des newsletters gratuites. Enfin, par exemple, il y a The Hustle qui est un peu enfin, une des plus
Ah,
grosses.
ok, c'est des trucs que tu vois, pas forcément dans une newsletter payante, quoi.
Ouais, j'en ai pas vu dans les newsletters payantes, j'ai vu que dans des newsletters gratuites. Alors après, The
Mais
Hustle,
du coup, ils offrent quoi, via seul? Ils offrent
bah
des trucs
c'est des
comme.
goodies, genre t'as des autocollants, t'as une casquette, etc. quoi. Et pareil, l'autre newsletter qui s'appelle Not Boring, donc qui est sur Substack, mais le gars il a trouvé une façon de gérer le referral via un outil externe. Pareil, il offre des goodies. Si jamais tu fais X referral, tu as le droit de prendre la parole dans sa newsletter qui est envoyée à 10 000 personnes. Donc tu as des petits trucs comme ça sympa.
Ok, c'est cool ça.
Ouais, c'est vraiment pas mal.
Donc en gros, en fait, quand tu penses à un process de referral pour ta newsletter, que ce soit une newsletter payante ou pas, tu peux penser à ça. C'est-à-dire que voir ça un peu comme les récompenses de crowdfunding, quoi.
Ouais.
Genre, tu me parraines 2 personnes, t'auras un pins, tu me parraines 5, t'auras une casquette, et tu me parraines 10, t'auras ta tribune dans ma newsletter.
C'est ça, ouais.
Faut le voir un peu comme ça, quoi. Mais alors, du coup, dans la newsletter, en dehors d'un programme de referral un peu forcé comme ça.
Ouais.
Voilà, il y a des bonnes pratiques. Alors, est-ce que tu as déjà fait le bouton forward, genre si ça vous intéresse, forwarder ça. Est-ce que tu l'avais explicité, par exemple, dans la newsletter Comet, est-ce que c'était un truc qui était disponible, le bouton
ouais.
forward
Ouais, on avait testé. Alors, tu pouvais pas le faire directement avec HubSpot, ça. Donc, on avait trouvé un petit mécanisme où tu pouvais mettre un lien. Alors, je sais plus comment on avait généré ça. C'était peut-être un outil externe qui nous permettait de générer des liens, justement, qui auto-forwardaient le truc. Je sais plus exactement. Et après, tu peux le faire dans Substack aussi. En gros, il te propose d'intégrer un bouton de transfert, et là, du coup, tu as une pop-up qui apparaît en disant est-ce que tu veux l'envoyer par email, est-ce que tu veux l'envoyer par WhatsApp, est-ce que tu veux l'envoyer par copier le lien, etc. quoi.
Ok, très bien, ça marche. Et alors, du coup, dernière étape du framework AR, on en parle rarement. Finalement, moi, je le saute souvent dans le podcast, mais bon, là, pour le coup, ça m'intéresse quand même. Déjà, je voudrais comprendre les différents modes, les différents plans d'abonnement.
Ouais.
Qu'est-ce que tu proposes et qu'est-ce qui est possible de faire, en fait?
L'avantage et l'inconvénient de Substack, c'est que c'est à la fois très simple et du coup très limité, forcément. Tu peux faire soit un abonnement mensuel classique, soit proposer un abonnement annuel où du coup souvent tu fais un discount, quoi, X% de réduction. Et après, tu as aussi la troisième option qui est la personne peut mettre le prix qu'elle veut, quoi. En gros, tu vois, moi par exemple, bon, il y a des gens, ma newsletter, elle est à 6 € par mois ou 60 € par an. Et, j'ai eu, je sais plus, mais j'ai eu une vingtaine ou une trentaine de personnes qui ont mis entre 65 € et, je sais plus, quelqu'un m'a donné 200 €, quoi. Comme sur Patreon ou des plateformes similaires.
Est-ce que tu vois d'autres façons de monétiser une newsletter?
Enfin, t'as le sponsoring, du coup, classique.
Ouais.
Après, t'as des trucs qui peuvent être intéressants, et ça dépend vraiment de ta newsletter, mais il y a une newsletter que j'aime beaucoup, je l'ai répété 3 fois, je crois, dans le podcast là, qui s'appelle Not Boring, et en gros, ce que fait le gars souvent, c'est qu'il va présenter une entreprise, une start-up, donc en détail, une start-up qui est en train de lever des fonds,
ouais.
et il se sert de sa communauté pour lever des fonds. Alors, je sais pas exactement si lui se rémunère. Peut-être parce que...
D'accord, donc en fait, il a un petit fonds d'investissement participatif,
ouais,
avec sa communauté.
Ouais, c'est ça.
Il fait la sélection.
Ouais.
Et en fait, il prend un pourcentage au passage du truc, quoi.
Bah, je sais pas trop, ouais. Ça, okay. Je sais pas, mais j'imagine que ça peut être un truc qui pourrait fonctionner comme ça. Et voilà. Et après, t'as souvent des newsletters qui marchent sur dons.
Ouais.
Et voilà, c'est les principaux que je connais moi.
Ok. Et à l'époque de la newsletter Comet, quelqu'un qui était inscrit dans votre newsletter côté client, mais qui n'était pas client, est-ce que vous mettiez des tentatives de conversion de temps en temps dans votre newsletter? Finalement, la newsletter, tu vois, c'est un peu comme n'importe quel canal, même genre Instagram ou n'importe quoi.
C'est, ouais.
Potentiellement, tu peux apporter de la valeur, et c'est un peu la... Alors, c'est pas lui qui l'a inventé, mais c'est vrai que le terme était bien vu de Gary V, là, Jab Jag Hook, là.
Ouais.
Tu apportes de la valeur,
ouais.
Et puis tu intercales comme un millefeuille, paf, un petit message pour essayer de,
ouais,
convertir, tu vois. Il y a la force du branding, et puis il y a aussi forcer un petit peu en intercalant entre le contenu, intercaler des trucs un peu plus de conversion, quoi.
Ouais.
Donc ça, c'est pas un truc que vous faisiez avec Comet,
non,
par exemple.
Non, on faisait pas, parce qu'après, c'était comme je te disais, c'était des le business de Comet, ce qui est quand même très il est peu transactionnel, quoi. C'est pas en mode je fais une newsletter, tiens, achète mon supplément.
20% sur ton premier freelance.
Ouais, on, tu vois, c'était pas du tout des trucs qu'on pouvait faire. Sachant que nous, en plus, on était sur des paniers moyens. Enfin, alors, je dis panier moyen, c'est pas vraiment un panier, mais c'était des missions de 20 jours en moyenne, avec des 20 000 euros de panier moyen. Donc, tu vas pas convertir quelqu'un sur un email, quoi. C'était vraiment. C'est vraiment plus du sales ou etc. Bon, évidemment, ça nous arrivait d'avoir des petites missions de un ou deux jours avec une startup qui prenait un freelance, mais c'était pas la majorité.
Oui, en fait, rapidement, vous êtes rendu compte que là où il y avait vraiment l'argent, c'était dans des comptes un peu plus gros, donc il faut
des sales. C'est ça, ouais. Donc c'est des sales qui vous en font le boulot et ouais, tu convertis pas. C'est plus après.
Mais c'est marrant parce que c'est quand même quelque chose que je vois vachement souvent. Mm-hmm. Dans l'évolution des boîtes, enfin de pas mal de boîtes françaises, c'est que ils commencent par essayer de faire un peu d'inbound, de choses comme ça.
Ouais.
Et puis ils ont en tête d'avoir potentiellement un truc un peu à la demande pour n'importe qui serait intéressé. Et puis ils se rendent compte que la thune, elle est, elle est vraiment, vraiment côté compte plus important. Et ils laissent tomber un peu plus SMB, tu vois. Mm-hmm. Et ils mettent le paquet sur les sales, quoi.
Ouais.
Et du coup, finalement, ils laissent tomber, même limite quasiment complètement, l'autre partie, quoi.
Ouais, ouais. Après, nous, on l'a pas laissé tomber loin de là, mais en effet, c'est un schéma qui se retrouve. Et puis,
c'est un schéma qui se reproduit souvent, ouais, j'ai l'impression. Ouais.
Bah après, c'est vrai que oui, les volumes sont tellement plus élevés sur du grand compte, encore plus pour nous, tu vois. En plus, nous, on avait beaucoup de problèmes de. Alors, nous, on appelait ça le bypass, où en gros, tu vois, un freelance était matché avec une start-up et après, bah, ils discutaient et ils se disaient, on va passer en dehors de la plateforme.
Ah, okay.
Ce que je comprends très bien, même nous, on l'a fait Comet quand on travaillait, tu vois, quand je travaillais avec Fiverr ou sur d'autres trucs, je l'ai fait. Parce que bah oui, t'as des problèmes de coûts, t'es pas Société des Générales qui a plusieurs milliards pour l'IT, quoi. Ouais. Donc ouais, c'était plus complexe, quoi, ouais.
Et vous l'avez résolu comment ce problème de bypass, du coup?
On l'a résolu en travaillant en plus avec des rencontres qui, pour eux, il y a une vraie valeur ajoutée à passer par la plateforme parce que ça allait, ça leur facilite l'admin, quoi.
Ouais, finalement, avoir un support du customer success et tout ça, et en fait, c'est ça la valeur ajoutée pour les gros comptes.
Ouais.
Ok, je comprends. Encore un peu hors sujet, mais bon, c'est intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer le business model de Snowball avec la reversion? Parce que quand j'ai vu ça, je t'avoue que j'avais jamais vu ça. c'est-à-dire que tu refiles de l'argent que les gens ont donné en partie.
C'est
ça. Alors déjà, j'aurais comprendre d'où ça vient. Alors, j'ai plein de questions. Hein. Alors, déjà, d'où ça vient? Pourquoi tu fais ça? Et est-ce que tu penses que ça joue beaucoup dans l'argument commercial de ta newsletter? Mm-hmm. Qu'il y aura une reversion? Et puis, ma dernière question, qui est un peu une question bête parce que j'ai pas trop saisi le concept, c'est est-ce que finalement, c'est pas censé être illégal de reverser une partie de l'argent avec les gens qui ont donné de l'argent?
Alors, je vais commencer par la dernière. J'en ai aucune idée.
En fait, t'es en train de faire une pyramide de Ponzi. Et puis, t'en avais pas rendu compte.
Non, c'est pas. Parce que, enfin, personne va devenir millionnaire, et ça c'est sûr. Ça serait pas possible. Si, je pense que c'est. Ça peut être légal, parce qu'il y a. Il y a pas mal de business qui font ça, des formes de cashback, etc. Donc je me dis qu'il y a une façon d'être dans la légalité. Après, je sais pas si j'ai fait le nécessaire pour le faire, mais après ça dépend aussi de comment je vais le faire. Tu vois, est-ce que si je fais un remboursement directement via Stripe aux gens, tu vois, je leur verse pas directement de l'argent, je leur fais juste un remboursement sur une facture qu'ils ont déjà payée, que ça peut être un moyen de détourner. Bon, bref, pour moi ça c'était un détail. Je suis plus souvent dans l'idée un peu comme l'idée est venue du fait que je me dis tu vois, quand tu rejoins une startup, en général tu reçois de l'equity, donc des actions de la boîte. Et tu reçois de l'equity pourquoi? C'est pour un, aligner un peu tes motivations avec les motivations de l'entreprise. T'as envie que l'entreprise réussisse, donc tu vas faire en sorte qu'elle réussisse, quoi, rester le plus longtemps possible, bien bosser, etc., etc. Classique. Et c'est aussi pour un peu saluer le risque et un peu récompenser le risque que tu as pris en rejoignant une toute petite startup ouais. plutôt qu'un grand groupe, quoi, en gros. Et accepter un salaire un peu plus bas, etc. etc.
Et puis il y a aussi l'esprit de communauté, c'est-à-dire que tu fais partie de l'aventure mm-hmm. et tu es un membre de la communauté à part entière.
Ouais, c'est ça.
Donc là, c'est de la rétention en fait.
Ouais, ouais.
En vrai.
C'est ça, ouais.
Tu fais de l'engagement et de la rétention en fait.
C'est exactement ça. Donc il y avait déjà ce côté-là que je trouvais intéressant. Je me disais, voilà, je vais lancer une newsletter payante, je sais pas trop où je vais. Donc j'aimerais bien faire un peu un système comme ça où je me dis, bah, les premiers à s'inscrire, bah, ils vont recevoir plus d'equity, entre guillemets, c'est pas vraiment de l'equity. C'est un peu des formes d'action, quoi. Et après, plus la newsletter va grossir et moins tu vas recevoir de. D'equity, quoi.
Ah, c'est comme ça que ça marche ?
Ouais, c'est pour ça que c'est pas une pyramide en fait.
Un truc fixe.
Non, c'est pour ça que c'est pas une pyramide parce que du coup, si toi tu t'inscris, tu vas pas forcément gagner des millions et ça servira à rien, ça sera une pacotille, quoi.
Et du coup, le premier inscrit, il touche quoi ?
Bah là, par exemple, en gros, les premiers, ils touchaient 600. Alors moi, j'ai appelé ça les snowflakes pour rester dans l'univers.
Exact. L'univers. Ouais, c'était bien.
Et du coup, il avait 600, en gros, on va dire 600 actions snowball.
Alors du coup, c'est quoi le cours du snowflakes ?
Alors attends, je vais te dire ça à l'instant. Je vais regarder dans. L'app, je vais dire ça, mais en...
Ah, parce que t'as fait une crypto-monnaie, en plus?
Non, j'en suis, bah, ouais, en vrai, c'est un truc, je sais, j'y ai pensé, je me dis que ça pourrait être jouable, et ça pourrait être intéressant, mais en gros, là, aujourd'hui, un snowflake, ça fait 0,014 €. En gros, ça veut dire que les premiers qui se sont abonnés aujourd'hui, avec tout ce que j'ai reçu en paiement, donc je parle pas de futurs paiements, c'est comme s'ils avaient eu 8,4 € remboursés, quoi. Donc en gros, ils ont eu plus d'un mois qui a été déjà remboursé en 3 mois, quoi. Donc il y avait ça.
C'est toi qui l'as inventé, ce système, ou tu l'avais vu quelque part?
Non, c'est moi qui l'ai inventé parce que je trouvais ça cool, et après je trouvais ça aussi cool d'un point de vue. Je restais dans le monde de la finance, en fait. Voilà, t'as une part de ça, tu reçois des dividendes tous les mois, donc il y a un petit côté un peu fun, geek, tu vois, un système un peu complexe, mais tu le comprends quand même assez vite, et aussi le côté, comme tu dis, je fais partie aussi de cette communauté.
Mais alors, c'est une super idée, évidemment, et ça appuie le branding à fond.
Ouais.
Est-ce que t'avais, quand t'as trouvé cette idée, est-ce que t'étais dans une démarche de comment rendre tout ça plus sympa, qu'est-ce que tu pourrais offrir comme contrepartie pour appuyer le branding, ou est-ce que ça t'est venu instinctivement? Parce que c'est souvent les questions que les gens se posent, c'est est-ce que c'est réfléchi et méthodique, ou est-ce que ça devient instinctivement ce genre de truc?
Un peu des deux. Au tout début, en fait, au tout début, quand je réfléchissais à me dire comment je pourrais monétiser Snowball, au début, ce que je voulais faire, en fait, c'est que je voulais que les gens me donnent, par exemple, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, mais disons 10 € par mois. Je prends ces 10 €, je les investis, je montre aux gens comment je les investis, et à la fin de l'année, je redistribue tout ça, et moi, je me prends une partie, quoi.
Ouais.
Donc, c'était intéressant, sauf que c'était quand même assez risqué, ça prenait beaucoup de temps, donc et moi les bénéfices, ils étaient pas forcément gigantesques, ce que je pouvais faire, sauf si j'avais beaucoup de volume, quoi.
Ouais, ça doit être bien encadré légalement, ce genre d'activité.
Ouais, aussi ça, c'était compliqué, parce que faire un club d'investissement, tu peux le faire, mais c'est maximum 10 personnes, donc ouais, il aurait fallu faire un peu des trucs un peu chelous. Donc j'ai vite écarté l'idée, et après je me suis dit, ah bah tiens, en fait, je pourrais juste prendre du coup une partie des revenus, donc aujourd'hui c'est 20%, et dire que voilà, t'as X actions et tu reçois un cashback à la fin de l'année selon ton niveau d'historique, pas ton niveau d'historique, mais quand tu t'es inscrit à la Snowball, quoi. Mmh, okay. Et donc c'est arrivé un peu naturellement après cette première idée, et l'idée là, un peu l'évolution, c'est plus de se dire, ok, je prends ces 20%, et aussi je les investis, et donc j'essaye de faire grossir encore plus ce que les gens m'ont donné, et pour leur redistribuer encore plus, et aussi leur montrer comment je fais, tu vois, le côté un peu fun, te dire ok, dans quoi t'as investi, pourquoi, etc. Voilà, le fil du raisonnement, en gros, ça a été ça, quoi.
Ok, très bien, je comprends. Et du coup, vers quoi tu veux l'emmener, Snowball?
Ouais, mais il y avait plusieurs solutions, et celle qui... En gros, il y avait plusieurs solutions, c'était soit... ça devient un peu une sorte de média autour de l'éducation financière, enfin, tu vois, professionnalisée encore, avec plus d'analyse, etc. Un peu comme pourrait faire je sais pas si tu connais, ou si les lecteurs connaissent, si les auditeurs connaissent, mais Finimize, qui est une newsletter slash app, parce qu'ils ont aussi une application avec beaucoup de contenu, bah, autour de la finance. Donc ça, c'est une possible évolution. Et la deuxième, c'était aussi de se dire, OK, garder ce socle éducation, contenu, etc., très fort, parce que je pense que c'est une vraie clé, surtout en France, de l'éducation financière. Et à côté, bah, de développer un ou des produits bah, autour des finances perso. Alors ça peut être, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, mais je sais pas, moi, un nouveau broker pour acheter des actions. Ça peut être un club d'investissement dans des startups. En fait, tout est possible et imaginable. Et en plus, l'avantage, c'est que, bah, du coup, j'ai cette communauté déjà, et je peux du coup m'en servir pour, entre guillemets, co-créer, aller sonder les gens, récupérer un peu des data et tout, et du coup permettre de construire un produit, enfin un vrai produit du coup, autour de Snowball. Donc c'est plus ce deuxième truc qui me chauffe. Enfin, c'est même pas plus, c'est ça qui me chauffe, quoi. Et donc c'est vers là que je pense que je vais essayer de l'amener, en tout cas.
Ok, super. En gros, c'est un peu le concept de capital social, c'est-à-dire que tu crées une communauté d'intérêt.
Ouais.
Et puis là, pour le coup, il y a différentes façons de la monétiser, différentes façons de construire son écosystème en apportant des briques qui peuvent les aider sur différents sujets, tout en restant dans la thématique
Ouais.
principale. Pour lier tout ça, bah, finalement, c'est effectivement le branding qui va lier tout ça, encore une
Ouais.
fois.
Ouais. Bah, on en
En partant de là, tu déclines quoi, tu as le snowball, tu as les snowflakes, enfin, c'est assez cohérent, c'est vraiment bien vu. Et finalement, bah, si on devait faire un état du marché, tu es en concurrence avec les nazes qu'il y a sur YouTube là, et qui, tu vois, genre les mecs qui vendent la liberté financière et qui, tu vois, en fait, ces mecs-là qui sont détestés par tout le
Ouais.
monde, bah, finalement, tu es en concurrence directe. Et la seule différence, c'est la façon de grossir qui est pas la même, puisque toi, du coup, tu as créé un truc engageant qui fait que les gens, du coup, permettent cette croissance organique et liée à la recommandation et à un intérêt vraiment
Ouais.
important. Et effectivement, tu as raison, je pense que la reversion joue un rôle dans cet esprit de communauté qui fait que toi, tu es perçu comme un truc cool, alors que eux, ils sont perçus comme des nazes qui se font chier avec leur pub, quoi. C'est quand même assez incroyable. Pour un peu, bah, après, je sais pas, évidemment, je suppose que ce que tu racontes est plus qualitatif, puisque à un moment donné,
J'espère.
voilà, eux, ils traduisent des trucs qu'ils ont vus en anglais,
Ouais,
tu vois.
c'est ça.
Mais finalement, voilà, tu es concurrence avec eux, quoi. Donc c'est assez intéressant de voir ça comme
Ouais,
ça.
ouais.
Question branding, et là pour le coup, question personal branding. En fait, les premières fois où j'ai vu tes posts sur LinkedIn, je me disais, bah, c'est sympa, mais je voyais pas le rapport avec Comet, tu
Ouais.
vois. Et pour moi, je me disais, bah, ça colle pas. En fait, tu devrais être une sorte de, ça devrait être un peu comme le Wu-Tang ou comme les Avengers, tu vois. C'est que un personnage public d'une entreprise devrait du coup décliner peut-être une personnalité différente,
Ouais.
mais être relié. Et du coup, avec Snowball, alors là, j'étais encore plus perdu parce que les outils du dimanche
Ouais.
de productivité avait plus rien à voir avec la finance personnelle. Et j'étais là, j'étais waouh, donc ça fait trois trucs qui n'ont rien à voir. Et du coup, je me disais, bah, est-ce que tu as eu une réflexion sur ton personal branding comment tu articules tout ça, quoi?
Alors non, j'ai pas eu vraiment de réflexion. J'étais plus, enfin, comme je te disais, tout à l'heure, on en discutait rapidement sur comment, entre guillemets, comment tu crées une marque quand tu te lances. Et je te disais, c'était un peu le prolongement du fondateur ou de la personne dans un premier temps. Et le personal branding, c'est un peu ça. C'est qui t'es toi, quoi. Et du coup, moi, je suis, ouais, quelqu'un de curieux, quelqu'un qui aime bien toucher un peu à plein de trucs. Je trouvais ça pas forcément hyper choquant de me disperser sur pas mal de sujets différents qui me passionnent en tout cas et de montrer que c'est une passion, quoi. Tu peux forcément diluer si demain, je sais pas, moi, disons, je lance une nouvelle start-up, pense que 80% de ma communication tournera autour de cette startup. Si ça devient un vrai gros focus, etc. Et du coup, je recentrerai un peu tout ça. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai pas forcément de problématique de centrer et de bien faire comprendre aux gens qui je suis. Oui, il y a Comet, ça, c'est une grosse partie, mais c'est aussi un sujet qui me passionne. Et du coup, enfin, quand je partage les side projects du dimanche soir, ça rentre un peu dans cet univers des gens qui s'épanouissent autour de projets qu'ils lancent. Donc c'est pas forcément bon. Après, tu vas me dire c'est un peu tiré par les cheveux comme rapprochement, mais pour moi ça rentre un peu dedans aussi.
À part moi qui a tiqué une fois, mais ça a pas l'air de déranger les gens en fait.
Non, donc,
ça reste assez cohérent.
Ouais, ça reste assez cohérent, on va dire. Et j'ai pas eu vraiment de réflexion. C'est juste que je partage des trucs que j'aime bien, quoi. En gros, encore une fois, c'est toujours du bon sens. Hein, j'ai l'impression. Mais voilà quoi.
Comment tu fais pour continuer à te former en marketing? Les newsletters sont pour toi une façon de te maintenir informé de tous les sujets qui t'intéressent.
Ouais.
Donc du coup, le marketing est juste une des thématiques des newsletters que tu reçois, quoi.
Ouais, c'est ça. Et c'est pas vraiment du marketing. Enfin, je suis pas abonné à des newsletters marketing type. Enfin voilà, vraiment que marketing, quoi. J'en ai une. J'en ai qu'une, ouais, on va dire.
T'es pas abonné à ma newsletter? La grosse semaine. Abonnez-vous.
On va attester, ouais. Non, mais j'en ai pas mal que je teste régulièrement. Et là, l'idée, c'est. En fait, je me suis centré, du coup, évidemment, je lis beaucoup de newsletters autour de la finance, surtout pour Snowball, tout ça.
Et alors, du coup, en termes de marketing, est-ce que tu as d'autres pistes pour apprendre des trucs? Ou alors, c'est que quand tu rencontres un problème que tu cherches des sources de
Ouais, c'est plus ça. C'est souvent très lié à un projet. Donc, tu vois, quand j'étais chez Comet et que, on avait la problématique du branding, je me suis beaucoup renseigné autour de ça, lu des livres, lu des articles.
Tiens, t'as des livres à conseiller pour les gens qui veulent améliorer leur branding?
Sur le branding, c'est pas forcément du pure branding, mais bon, t'as le classique Start With Why de Simon Sinek, qui est vraiment top, surtout cette partie de trouver un peu sa raison d'être, quoi, et qui pour moi est primordiale dans le branding. T'as aussi alors c'est pas encore une fois directement avec le branding, mais hyper lié, donc il s'appelle Inspired, donc c'est plus sur du product management, mais il est beaucoup question de marketing dedans et de branding, etc. Et il y a aussi un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle, je crois qu'il s'appelle juste Storytelling, et en gros, un petit livre très marrant qui montre qu'en fait, tout ce qui existe, c'est quelque chose qui raconte.
C'est
du storytelling, c'est raconter une histoire, et quand tu pars de là, en fait, c'est, même le personal branding, c'est raconter une histoire, l'histoire de ta vie, etc.
Comment tu vois ces choses-là? Parce que le storytelling, on va pas dire que c'est de la manipulation, mais c'est raconter d'une façon différente la réalité.
Ouais.
Alors, je suppose que toi, tu préfères toujours partir de la réalité pour raconter une histoire. Mais quel niveau de modification tu t'autorises quand tu travailles avec le storytelling d'une activité, d'une boîte, d'un truc
Plus j'avance...
Et moins tu mens.
Ouais,
quoi.
C'est ça. Ouais. Ouais. Plus je tends vers la transparence et la vérité. Et je trouve que c'est à la fois plus sain psychologiquement pour la personne qui a écrit ce type de marketing, et c'est aussi beaucoup plus sain pour la personne qui le reçoit. Donc je creuse beaucoup tout ce qui est marketing positif en ce moment, tu vois, vraiment faire un truc qui a un impact positif sur les gens et pas négatif, quoi, évidemment.
Ouais.
Plus tu vois, si t'as une application, de pas forcément forcer les gens à revenir régulièrement de façon un peu compulsive dessus, type avec les notifications, tout ça, qui est du marketing, clairement. Quand tu fais un mail, tu fais pas un objet putaclic si jamais il y a pas grand chose dedans. Des trucs un peu dans le genre, quoi.
Mais quand t'as créé le modèle de reversion, est-ce que tu t'es dit ça c'est bon pour la rétention, ça va créer un effet d'appartenance?
Non, ça je l'ai plutôt fait parce que je trouvais ça cool. Je trouvais ça vraiment cool et
d'accord. Ok.
Et c'était vraiment ça le truc, et après je me suis dit oui, forcément les gens ça va attiser leur curiosité et en plus ça va leur faire gagner de l'argent sur l'abonnement, donc tout le monde était gagnant, quoi. Donc
Et quel newsletter tu peux nous conseiller?
Ben Parrish, je crois, Farnham Street, je sais plus si c'est Ben, ouais, ça doit être
ouais.
ça, qui est vraiment sur...
Je connais pas, ça parle de
alors,
quoi
c'est, alors lui, il a un blog, mais du coup, il fait une newsletter tous les dimanches, je crois, où en gros, ça parle beaucoup de, bah, justement, de modèles, plutôt des modèles mentaux, tu vois, comment les gens raisonnent, comment tu peux éviter d'être biaisé par tel ou tel truc, donc vraiment, un peu, du contenu autour de... comment raisonner, quoi. En gros, comment ton cerveau raisonne et comment bien raisonner, comment éviter les, bah, ce qu'on vient de dire, là, de se faire manipuler, etc. Donc, il y a celle-là que j'aime beaucoup. Et sinon, celle de, bah, du coup, celle de Jean-Charles Samuel-Yan est vraiment pas mal. Il envoie, je crois, une fois par semaine aussi. Sur le site de Alan, il y a moyen de pouvoir trouver le lien, mais je suis pas sûr, forcément sûr.
Okay.
Donc là, il partage beaucoup des, tout ce qui, tout autour du business, construction d'entreprise, culture d'entreprise et tout. Il y a Not Boring, donc je crois que c'est
la fameuse,
ouais, c'est vraiment très très cool. Le mec est très fort, il va analyser des boîtes vraiment en détail et à la fois d'un point de vue business, mais d'un point de vue branding. Enfin vraiment, enfin tu vois, il a fait une édition sur Stripe, une édition sur Tencent, le géant chinois, donc vraiment vraiment cool. La dernière, je dirais, il y a The Diff, donc The comme le, et Diff, D-I-F-F, de, alors il s'appelle comment, Byrne quelque chose, et pareil, très business aussi, où souvent il creuse les entrées en bourse des nouvelles boîtes en analysant leur modèle économique, etc. Quoi. Donc j'en aurai encore plein d'autres à te donner, mais sinon ça va être long, mais bon, c'est ma sélection, quoi.
Alors du coup, tu passes combien de temps par semaine à lire des newsletters?
Oula, bah je suis passé d'un... Je lisais énormément d'articles il y a 8-9 mois, et j'ai quasiment tout switché mes lectures sur des newsletters.
C'est marrant, moi aussi. En fait, je tombe sur des blogs maintenant que quand je cherche un truc, mais sinon...
Ouais.
Je lis plus que des
newsletters. Bah ouais, il y en a tellement des intéressantes que bah plus le temps de lire des articles, quoi. Et je dois passer une bonne heure et demie par jour, hein, sur des newsletters. Ouais.
Y a-t-il des livres, des films, des personnes ou autres qui t'ont inspiré dans la vie ou qui t'inspirent?
Alors j'ai récemment découvert, c'était il y a ouais, un an et demi, je crois, en fait, un entrepreneur c'est un Français qui s'appelle, alors je sais, son prénom, je suis très mauvais avec les prénoms, mais je crois que c'est Jean-Baptiste André Godin, ouais, c'est ça,
ouais.
Qui est, je pense que tout le monde a déjà vu, c'est en gros, c'est lui qui fabriquait l'entreprise existe toujours, qui s'appelle Godin, c'est des poêles pour chauffer les maisons, et je pense que tout le monde en a déjà vu avec ces poils noirs dans les maisons avec écrit Godin dessus, donc qui sont assez connus. Et donc lui, c'était un entrepreneur du 19e siècle, 1800 et quelques, qui avait une vision assez assez incroyable de la société et de l'entrepreneuriat. En fait, c'était un entrepreneur à impact positif, tu vois, il avait il était très utopiste dans sa vision du monde, et il avait voulu construire cette utopie. Et en gros, il avait créé des usines. Alors, c'était à Guise, dans le nord-est de la France, où en gros, il avait les usines. Et à côté, il avait construit alors, ce qu'il appelait le Familistère. En gros, c'était un lieu de vie où, en gros, tous les gens qui... En gros, c'est assez incroyable parce que tous les employés avaient accès au logement, du coup, dans ce Familistère. Il n'y avait pas de... Tu vois, les cadres supérieurs, alors c'était pas des cadres supérieurs, mais ils n'avaient pas accès à des maisons plus grandes. C'était vraiment assez égalitaire dans la vision des choses. Donc c'était plus, si t'avais deux enfants, t'avais un appartement plus grand. Bon bref, t'avais accès à l'école gratuitement. Les femmes avaient le droit de vote à l'intérieur du Familistère. Enfin, des choses qui étaient inimaginables dans la société du 19e de l'époque. Droit de vote en interne, pas vraiment de hiérarchie. Bon, bref, il a eu pas mal d'échecs, mais bon, voilà, c'est vraiment passionnant comme mec, quoi. Il a écrit un livre justement autour de sa vision des choses, et que je dois lire parce que j'ai juste lu des articles. Donc ouais, assez fascinant et peu connu, et en plus en français, donc c'est rare.
Bah effectivement, je connais pas, je vais aller voir ça avec plaisir.
Ouais, non mais Kras, c'est super intéressant, et on peut visiter, enfin je conseille aux gens d'aller le visiter, c'est à 2 heures de Paris, c'est vraiment cool quoi. Donc il y a lui, et après, ouais, ben, tout le monde dans mon entourage le sait, mais je suis un très 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 grand fan de Apple et de Steve Jobs, plus vraiment sur sa capacité à... Bah vraiment à créer des marchés quoi. Enfin, c'était un marketeur de génie dans le sens où bah, il a créé plusieurs marchés qui n'existaient pas quoi. En gros bah, voilà, l'ordinateur personnel le smartphone enfin, et après l'iPad etc. Bon, bref, énormément de choses, donc assez admiratif de cette partie-là en tout cas de lui. Après ouais, sur des livres celui qui m'a beaucoup marqué, et je pense que je garderai longtemps en tête, c'est celui de Tony Hsieh, qui, alors le titre français, je me souviens pas, mais c'est Delivering Happiness. Donc en gros, c'était le fondateur de Zappos qui a été racheté
Ouais.
1 milliard par Amazon. Donc Zappos qui vendait des chaussures en ligne, quoi, les premiers à vendre des chaussures en ligne. Avec cette vision centrée autour du client incroyable quoi, même maladive presque parfois si tu regardes de plus près quoi, mais voilà quoi, en gros de créer hein, et aussi une volonté de créer une culture de bienveillante d'entreprise que je trouve aussi assez incroyable. Voilà, il voulait vraiment créer l'entreprise où les gens se sentent bien, s'épanouissent, et voilà quoi. Donc c'est vraiment de, voilà, c'est...
Ok, Delivering Happiness. Ok, c'est parfait, c'est noté.
Ouais, c'est ça, ouais. Je crois que c'est l'entreprise du bonheur en français, c'est ça, ouais, l'entreprise du
Eh
bonheur.
ben, merci beaucoup, c'est super. Merci d'avoir accepté mon invitation.
Ben, avec grand plaisir, c'était très cool.
Et puis, bah, bonne continuation pour la suite. Et puis, bah, peut-être à bientôt sur le podcast alors.
Ben ouais, j'espère, avec grand plaisir, ouais, à bientôt.
Salut, Johan.
Salut, salut.
Merci d'avoir écouté cette interview. Si ça vous a plu, rendez-moi un petit service, ça vous prendra 10 secondes. Allez mettre une bonne note au podcast. Tous les détails de l'épisode sont à retrouver sur mon blog, yannleonardi.com. J'ai aussi une chaîne YouTube où je réalise des études de cas marketing. Je vous prépare plein de choses sympas pour la suite. Alors inscrivez-vous à ma newsletter pour être averti et pour recevoir des conseils marketing et des ressources en exclusivité. À bientôt, ciao.